La mort de George Floyd à Minneapolis a créé un mouvement planétaire de contestation des violences policières et des violences racistes commises par les forces de l'ordre. En France, c'est la mort d'Adama Traoré et le combat de sa famille pour obtenir justice qui est sous les projecteurs. Plus largement, les violences policières renvoient au rapport de classe et à la criminalisation de populations érigées en menace et contre lesquelles l'ordre sécuritaire est censé nous protéger. Pour entrer dans les réalités de ces violences et pour évoquer les combats qui se mènent aujourd'hui contre la brutalité de la répression policière et judiciaire, nous avons contacté Mélanie du collectif de Gilets jaunes amiénois, les Réfractaires du 80, collectif qui organise à partir du 14 juin une semaine de mobilisation.
Je m'appelle Mélanie, je suis travailleuse sociale sur Amiens. J'ai 39 ans, je suis maman de deux petites adolescentes de 12 et 16 ans et je suis gilet jaune depuis le 1er décembre 2018.
Et tu fais partie d'un collectif de gilets jaunes qui s'appelle les Réfractaires du 80. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif ?
Alors, le collectif dont je fais partie, les Réfractaires du 80, est un collectif qui s'est monté février 2019 parce que sur Amiens, alors moi je militais essentiellement sur Paris et sur Amiens, la mobilité a commencé à disparaître. Il y avait presque plus de manifs le week-end, les gens préférant aller soit sur l'île ou dans les grandes villes avoisinantes. Et il y avait plusieurs groupes de gilets jaunes dans notre ville. Les gilets jaunes d'Amiens ne se retrouvaient pas dans ces deux groupes-là, qui étaient les gilets jaunes pacifistes et les gilets jaunes de M. Grenier. Et donc, on nous a proposé, lors d'une manifestation, de reprendre un peu une page Facebook qui avait pas mal d'abonnés pour pourquoi pas reprendre des mobilisations sur Amiens. Donc on a commencé comme ça sur Amiens avec le groupe des Réfractaires à partir de janvier-février où on mettait en place des manifs, donc avec un point de rendez-vous, et puis après on était assez libre hein, car on n'a jamais réellement déclaré les manifs sur Amiens. On savait de où on partait mais on savait pas où on allait arriver, et on a fonctionné comme ça pendant quelques mois et on n'avait pas de nom, mais le courrier Picard nous mélangeait aux deux autres groupes. Donc on a lancé sur Facebook un sondage, c'est le nom Les Réfractaires du 80 qui a eu le plus grand nombre de votes, et c'est pour ça qu'on a choisi d'adopter ce nom.
Alors aujourd'hui, quelles sont les activités du collectif, du groupe, en termes de mobilisation, de réunion, d'action ?
On n'a jamais arrêté, même pendant la crise sanitaire, on faisait des visios, on faisait nos réunions en visio. Pour nous, c'est super important de se voir toutes les semaines, d'une part parce que avec les textes de loi qui évoluent, on n'est pas tous au courant, et en étant plusieurs à s'informer, on peut croiser les informations. Et donc, on se voit tous les mardis pendant 2 heures où on construit, on se projette dans des, on se projette sur, on essaye de faire un planning par mois. Donc là, on a tout le mois de juin qui est calé. Donc, par exemple, pour le mois de juin, la semaine dernière, il y avait un covoiturage pour Paris, plus une manifestation qu'il y avait sur Amiens qui a été déclarée en dernière minute. Mais pas par les gilets jaunes, par un autre groupe, pour dénoncer les violences policières. Samedi, on fait une manifestation qui a pour thème de dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Donc, le chômage partiel, le fait qu'il n'y ait pas eu de masque. Et donc, on va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette crise sanitaire et les mettre en valeur sur des pancartes, sur des banderoles. Et on défilera avec samedi. La semaine qui suit, on a plusieurs camarades gilets jaunes qui passent en procès. Donc la semaine du 14 au 18, on est sur des mobilisations devant le tribunal, le 16 et 17. Le 15, on diffuse une émission télé qu'on va enregistrer, non le 14, une émission télé qu'on va enregistrer sur un plateau à Montreuil ce dimanche, qui sera diffusée sur notre page Les Réfractaires du 80 sur Facebook dès lundi. Mardi 16, on est off. Mercredi 17, il y a procès, du coup, rassemblement à midi devant le tribunal. Jeudi 17, il y a de nouveau un procès, donc rassemblement devant le tribunal à midi. Le samedi, nous avons répondu à l'appel de la marche pour commémorer la mémoire de Lamine Dieng et demander justice. Donc, nous organisons un covoiturage. Et le samedi 27, c'est nos camarades Gilets jaunes de Maubeuge qui nous ont invités à les rejoindre. Donc on va sur Maubeuge le samedi 27.
Sur la thématique des violences policières, comment on peut ou comment vous faites le lien entre les violences qu'ont subi les Gilets jaunes et les violences racistes qui là aujourd'hui sont dans l'actualité? Quel est le dénominateur commun en fait entre ces violences?
Le dénominateur commun, c'est la police. Alors moi, j'ai la malchance d'avoir été, de faire partie du collectif des mutilés pour l'exemple, car j'ai été blessée lors d'une manifestation le 20 avril sur Paris, le 20 avril 2019 sur Paris. Je suis de dos, je marche, j'ai les bras levés, et le commandant divisionnaire, un des plus hauts gradés des CRS, vient et me matraque la nuque, me laissant pour morte au sol, parce que je perds connaissance tout de suite. Donc la violence policière est devenue systémique, c'est devenu quelque chose de normal. En fait, on ne dialogue plus avec la police. Moi, je suis habitante de quartier populaire, j'habite à Mianor depuis que je suis née, j'y ai grandi, j'y élève mes enfants et je vais y mourir dans ce quartier parce que j'aime ce quartier. Par contre, j'ai toujours su qu'il y avait des violences policières contre nos frères, contre nos oncles, contre nos pères. Nous, les filles, on était assez épargnées. Parce que le policier est misogyne et le policier pense qu'une fille ne peut pas faire partie d'émeutes, par exemple. Aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, on a passé un cap. C'est-à-dire que autant avant, on réservait cette violence aux jeunes maghrébins ou aux jeunes noirs africains, ce qui n'est pas du tout tolérable et ce qu'on condamne depuis le début, mais aujourd'hui, on s'en fiche, que ce soit une personne âgée, on l'a vu avec Madame Le Guay, que ce soit un handicapé. On a tous en tête des vidéos où on voit la police charger une personne en fauteuil roulant, que ce soit une femme, que ce soit même un enfant. On a vu ça avec Gabriel, c'était pas sur une manif gilet jaune, mais l'enfant, 14 ans, qui se voit fracturer la pommette, qui risque de perdre son œil, qui a des dents cassées, et la police explique qu'ils lui sont tombés dessus, et qu'en fait c'est un coup de genou maladroit qui a cassé des dents. Donc oui, on fait la relation. En fait, le mouvement des Gilets jaunes a ouvert les yeux à beaucoup de Français qui ne savaient pas ce qui se passait dans nos cités, qui l'ont senti dans leur chair, et aujourd'hui, ils le savent. Et c'est pour ça que nos luttes se croisent, et que c'est pour ça que c'est aussi important pour nous, les Gilets jaunes, de rejoindre toutes les mobilisations contre les violences policières, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont découvert les violences policières durant ce mouvement.
Le collectif des Mutilés pour l'exemple, est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, le nom, le choix du nom, et puis aussi, quelle est la raison d'être du collectif? Quel est son objectif?
Alors moi, je n'intègre pas le collectif des Mutilés pour l'exemple dès le départ, puisque je suis blessée en avril. J'intègre le collectif en mai, après la première marche des Mutilés. Donc, Mutilés pour l'exemple, l'origine du nom, c'est... On dit qu'une personne mutilée, c'est 1000 personnes qui rentrent chez eux, de peur d'avoir cette mutilation. Et en fait, on regroupe, c'est un collectif qui regroupe tous les mutilés blessés qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. On a notre camarade Vanessa Gilet jaune qui était blessée, qui a perdu son œil, son cerveau est en train de se nécroser. Et en fait, c'est elle qui est le moteur de ce collectif. Donc, le collectif a pour but d'aider psychologiquement les mutilés parce qu'on n'a pas d'aide psychologique. Moi, quand j'ai voulu aller voir un psy pour faire de la désensibilisation, et ben, c'est tout de suite 80 euros la séance. Si on est gilet jaune, en grande partie, c'était pour demander à avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc, les 80 euros par semaine, ben je les ai pas. Donc ce collectif nous sert aussi à pouvoir discuter entre nous, et puis ben on se comprend. C'est un peu bête ce que je vais dire, et peut-être que les personnes qui vont m'écouter vont pas me comprendre, mais personne ne nous comprend mieux qu'un autre mutilé ou qu'un autre blessé. La peur qu'on a en nous, nos traumatismes, les cauchemars qui viennent, qui reviennent, le fait qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'arrive plus à manger, que pour nous la vie n'a plus de goût, qu'on n'a plus de patience, ben c'est difficile pour nos familles de nous écouter, de nous entendre dire tout ça. Donc quand on est entre nous, et ben on se lâche et on se dit ben merde, j'en ai marre. J'ai une camarade qui n'arrive plus à avoir de sensations, de sentiments quand elle prend ses enfants dans ses bras. J'ai un camarade qui a perdu l'odorat et qui jamais ne pourra sentir l'odeur de son enfant. C'est des choses comme ça que les gens qui n'ont pas subi ce traumatisme ne peuvent pas le comprendre. Et on comprend que ces personnes ne puissent pas le comprendre. Mais ce collectif, il est là pour nous aider à parler et à tout lâcher. Et donc nous, on demande en fait l'arrêt du LBD, l'arrêt des prises d'étranglement, on demande l'arrêt des grenades Gliscat, on demande, voilà, ce collectif est là et pour écouter et pour orienter aussi, parce que maintenant on a des psychologues, on a des médecins, et donc on peut orienter nos camarades qui viennent d'être blessés, mais aussi on demande à ce que tout ça soit revu en fait, et qu'on réforme les méthodes de la police.
Comme tu l'as dit, ce mois-ci, vous appelez aussi à des manifestations, des mobilisations contre la répression judiciaire, parce qu'il y a la répression policière, la brutalité concrète dans les manifestations, mais il y a aussi une répression judiciaire. Et vous avez justement des cas dans votre collectif, ou en tout cas à Amiens, chez les Gilets jaunes. C'est pour ça que vous appelez à vous mobiliser ce mois-ci. Est-ce que tu peux parler de ces cas-là ?
Alors, on a une camarade qui s'est fait interpeller lors d'une manifestation dénoncer la loi retraite, les réformes de la retraite, dissimulation de visage. Donc, il y a les gaz lacrymogènes qui sont lancés par la police. Elle a monté son cache-nez et elle est cycliste. Et du coup, elle a toujours un cache-cou et c'était l'hiver en plus. Donc, elle a monté son cache-cou sur son nez. Et la police est venue l'interpeller le soir parce qu'il y avait un meeting de notre mairesse sortante qui est La République En Marche. Et donc, on avait décidé d'aller chanter des chansons devant le meeting. Et la brigade anticriminalité, la BAC, avait eu l'ordre de l'interpeller elle spécifiquement. Et c'est la commissaire qui a demandé son interpellation. Ça, c'est pour ma camarade Amandine. Pour mon camarade Jules, lui, c'est refus d'obtempérer. Il y a eu une interpellation devant lui et il s'est interposé pour pas que le cégétiste soit interpellé. Et au final, c'est notre camarade Jules qui s'est fait interpeller à sa voiture. Et le troisième, c'est Chris. Chris, lui, c'est suite à des publications Facebook. Pendant le confinement, on est venu le chercher chez lui, suite à des publications qu'il avait faites sur le gouvernement.
Vous participez là à la mobilisation contre les violences policières qui ont pris de l'ampleur avec la mort de George Floyd. Vous, ça fait un moment que vous êtes mobilisé sur cette thématique-là. Oui. Comment on peut expliquer l'ampleur que ça a pris aujourd'hui ?
Alors moi, ça me met un peu en colère. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, je ne comprends pas que ça rayonne autant. Parce que chez nous, on a eu quand même M. Chouvia qui est mort dans le même contexte. Il y avait une vidéo aussi. Et du coup, je ne comprends pas. Je suis dans la capacité de vous expliquer pourquoi quelque chose qui se passe aux États-Unis fait que ça rayonne sur la planète entière, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Hein. On a tout de suite dégainé. Dès qu'on a vu la vidéo de M. Chouvia, c'était horrible, quoi. C'était... Pourquoi pour Adama Traoré, il n'y a pas eu... Il y a eu, quoi, tous les 20 juillet, on s'en va marcher avec le collectif. Mais pourquoi aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Est-ce que c'est... Parce que là, ça met en avant aussi le racisme d'État, le racisme de la police. Mais en France, la police est raciste. Quand on entend Bico, quand moi, je me fais insulter de cassos, quand on vient m'interpeller, qu'on me dit « Ah ouais, c'est vous qui portez le drapeau algérien sur votre dos », quand un policier me dit « Ouais, c'est vous qui avez le drapeau algérien pendant les manifs, vous aimez bien vous faire remarquer. Hein. Oh, puis votre nom de famille, il n'est pas très français quand même. Hein. Ah oui, et puis en plus de ça, vous verrez, de toute façon, si vous êtes dans la rue, c'est votre faute parce qu'il fallait voter Le Pen. » Et cela n'engage que moi peut-être, mais la police est raciste. Peut-être que George Floyd, ça a mis ça en avant. Le racisme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le racisme ? Nous, les Gilets jaunes, on est dans la rue contre toutes les injustices sociales, fiscales, climatiques. Pour moi, la pire des injustices sociales, c'est bien le racisme. Il y a, par exemple, pour l'affaire Lamine Dieng, dans le rapport de la police, il est inscrit que le policier a pris peur parce que Lamine avait des gros mollets. est-ce qu'on se rend compte de la bêtise de la chose? C'est-à-dire que parce que l'homme noir est souvent athlétique et mon mari est ivoirien, mesure 2 mètres, fait 120 kilos, et donc l'homme noir fait peur. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison on se sent obligé de mettre au sol et d'écraser un homme? Pour quelle raison? Parce qu'il est noir et qu'il vous fait peur? Ben posez, c'est à eux de se remettre en question, c'est à eux de se poser les bonnes questions. Ce n'est pas normal qu'une couleur de peau fasse peur. Ce n'est pas normal que à cause d'une couleur de peau, on nous mette le poids de trois hommes sur le dos de nos frères, de nos maris, de nos pères. Ce n'est pas normal. Donc à eux de revoir leur protocole, à eux de se réformer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de la justice. C'est que Monsieur Traoré soit traité comme Monsieur Dupuis, que Monsieur Dupuis soit traité comme Monsieur Dieng, que Monsieur Dieng soit traité comme Monsieur Alami.
Quand on voit l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre, quand on voit là actuellement le déni total dont font preuve les dirigeants politiques ou les médias dominants, hein, il n'y a pas de violence policière. Quand on voit la proposition de loi d'Éric Ciotti et d'autres lois qui attentent à la liberté de manifester ou d'informer, bref, quand on dresse ce tableau-là, on s'interroge quand même sur la possibilité de changement, sur la possibilité d'un changement radical. Donc vous qui êtes aussi engagé dans une lutte de longue date, hein, parce que ça fera 2 ans cette année que le mouvement des Gilets jaunes aura commencé, sans réellement aussi, hein, qui est vraiment de victoire. Voilà, comment garder à l'esprit cet horizon de changement?
Alors peut-être qu'on est très naïf ou peut-être qu'on y croit vraiment beaucoup en fait. Moi je sais pas dire, moi je suis pas pour la 5e République parce que tant qu'il y aura un 49-3 dans la 5e République, on n'arrivera jamais à rien. Donc moi je suis pour une 6e République, je suis pour tout réformer. Et je pense qu'une majorité des Gilets jaunes sont aussi pour que tout soit réformé et qu'on puisse élire un peu comme en Suisse, mais mieux, qu'on puisse élire le peuple. Et que le peuple gouverne enfin. Donc oui, j'ai de l'espoir. Oui, j'y crois. Et c'est pour ça que je suis encore dans la rue. C'est pour ça que vous me verrez encore dans la rue jusqu'à ce que, eh ben, on ait un début de réponse à nos propositions. Donc on y croit. On est peut-être naïf. On est peut-être trop optimiste. On est peut-être nos consciences se sont réveillées. Moi, je suis primo militante. J'ai commencé ma formation politique et mon militantisme le 1er décembre 2018. Avant ça, j'étais une Française lambda qui n'avait pas de position, qui allait voter à chaque élection en votant pour ses couleurs, parce que j'avais quand même une couleur politique, mais je ne militais pas. Mais aujourd'hui, ils ont mis les gens dehors et ils n'arriveront plus jamais à les faire rentrer, tant qu'on n'aura pas un début de réponse.
Justement, à un niveau beaucoup plus concret, là, et notamment sur le thème des violences policières, quelles sont les revendications concrètes? Quels peuvent être des objectifs à court terme?
Alors, arrêter l'usage du LBD-40. Arrêter les prises d'étranglement. Nous sommes l'un des seuls pays européens à exercer ces prises d'asphyxie qui cassent les larynx, qui tuent nos frères, qui tuent nos pères. Arrêter ces prises qui sont mortels. Arrêtez le LBD. Ou peut-être mieux former, parce qu'il ne faut pas oublier que les LBD, ce n'est pas des flashballs. Les LBD 40, ils ont des viseurs holographiques dignes d'un viseur militaire. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a perdu autant d'œil, que de personnes aient perdu autant de yeux alors qu'ils ont des viseurs. Donc nous, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on enlève les LBD, peut-être qu'on revienne avec une police de proximité. Moi, quand j'étais petite, je voyais mon père jouer au foot avec la police. C'est peut-être con, mais dans la rue, on se saluait. Du coup, on se connaissait par nos prénoms. On se disait bonjour, on se respectait parce que il y avait des matchs de foot, il y avait des grands repas, les repas de l'Aïd, où la police venait, et venait avec des cajots de fruits, et on partageait avec eux. Et du coup, il y avait de l'échange. Après, on nous a enlevé la police de proximité, Monsieur Sarkozy est arrivé avec ses flashballs, et on est devenu sur une police où on va au contact. En Allemagne, on est sur tout à fait autre chose, on évite le contact. Là, on va au contact. Le commandant divisionnaire qui m'assène un coup de matraque, il est venu à moi. Je ne suis pas venue à lui. Moi, je partais. Et Le premier truc qui m'est venu, parce que le 1er décembre 2018, quand je suis sur les Champs-Élysées, moi, j'avais invité ma gamine de 14 ans à venir avec moi. À l'époque, elle avait 14 ans, de venir avec moi, parce que pour moi, j'allais à une manif. Vous savez, comme les grandes manifs qu'on a eues quand Le Pen était au deuxième tour. Moi, je pensais que j'allais là. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis assise sur les Champs-Élysées, je pleurais. Ils n'avaient qu'un seul mot dans la bouche, ils sont en train de nous massacrer. On nous massacre. On nous insulte. Moi, je passe pas une seule manif sans qu'un flic m'insulte, alors que je le regarde même pas. On se prend des fils de pute, des connards, des cassos. Alors ça, cassos, et c'est pas possible. Du coup, nous, on veut que ça soit réformé et que surtout, on arrête ça. Qu'on arrête ces putains LBD 40, ces putains de prises d'étranglement, d'asphyxie. Qu'on revienne à une police de proximité, une police qui n'est pas armée, mais une police qui est formée à la médiation. Pour parler. Hier, j'étais sur le marché de ma ville, sur mon quartier, sur le marché d'Amiens Nord, et deux petits jeunes qui avaient un emplacement déclaré et qui vendent des parfums, il me semble, ils étaient assis sur une barrière. Et ben la police, ils se souvenaient pas pour leur demander de descendre de la barrière. Il y a des policiers, ils sont zélés. Ils font de la merde. C'est, tu descends de là. Mais pourquoi tu descends? Pourquoi? Et les jeunes, ils sont descendus. Ils auraient été moi, mais j'aurais dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait? Mais pourquoi vous, pourquoi? Voilà ce qu'on demande. Est-ce qu'ils soient mieux formés, mieux informés, et surtout qu'ils soient formés à la médiation, et qu'ils apprennent à parler aux gens, qu'ils apprennent à parler, bordel. Parce qu'ils nous parlent pas, ils nous insultent, ils nous méprisent, ils nous font comme le président, il faut traverser pour trouver du travail, ben eux, ils sont dans la même dynamique. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, quoi? Oui, on peut leur en vouloir, parce que quand même, ils ont des cerveaux, ce sont des personnes à part entière, ils sont pas obligés de rentrer dans un système.
Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner des informations pratiques? En début d'interview, tu as donné beaucoup de dates pour des appels à manifestations, à mobilisation, à action. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations?
Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le groupe qui s'appelle Les Réfractaires du 80. Vous avez une page ouverte et un groupe fermé. Vous nous demandez en ami, on accepte tout le monde. Et toutes les infos, on essaye de faire des agendas mois par mois où on reprend toutes les mobilisations auxquelles on participe ou qu'on met en place. Et vous pouvez nous contacter en privé. Quand il y a des manifs sur Amiens, on a des systèmes d'hébergement. Quand on va sur Paris ou quand on va sur Lille, peu importe, on fait des systèmes de covoiturage solidaire. Et voilà, donc n'hésitez pas, on a un Twitter qui s'appelle aussi Les Réfractaires du 80, on a un Instagram qui s'appelle aussi Les Réfractaires du 80, on est un peu monomaniaque. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, même en message privé, pour des réunions, pour des informations, pour qu'on puisse partager sur nos pages, on le fait volontiers.
À notre micro, Mélanie du collectif de Gilets jaunes d'Amiens, les Réfractaires du 80, au sujet des violences policières.